et le Seigneur m'a dit très, très clairement dans mon esprit qu'il fallait qu'on souligne la joie. Amen. Qu'on va travailler la joie cette année comme nous avons travaillé la liberté l'année dernière, mais quand vous savez que la liberté, ce n'est pas pour faire n'importe quoi, oui, et la joie, ce n'est pas pour faire n'importe quoi non plus. Amen. Oui. Donc, nous allons parler de la force de la joie que nous avons commencé la semaine passée. Le verset clé, c'est le même verset. On a fait deux maintenant là-dessus. C'est qu'à la joie de l'Éternel est votre force. Est-ce que vous voulez tourner vers quelqu'un et dire qu'à la joie de l'Éternel est votre force? Posez cette question à votre voisin, votre voisine. Avez-vous besoin de la force? La réponse est quoi? Nous avons tous besoin de la force. Donc, il nous faut la joie du Seigneur. Hallelujah. J'aime commencer avec une petite déclaration. Si vous avez votre Bible, smartphone, tablette, oui, levez-la et on va cette déclaration ensemble. Dis, voici ma Bible. Je suis ce que la parole de Dieu déclare à mon sujet. Je possède tout ce qu'elle affirme. Et je suis capable de faire tout ce qu'elle me promet. Je plonge mes regards dans la parole de Dieu. Et je persévère. N'étant pas un auditeur oubliant, mais se mettant à l'œuvre. Et je suis heureux dans mon activité. Ce que je crois dans mon cœur et que je déclare de ma bouche se manifeste dans ma vie au nom de Jésus. Je crois, mes amis, que cette enseignement, cette prédication va vous aider dans votre vie quotidienne et va vous amener à un nouveau niveau, amen, avec Dieu, hallelujah, parce que la joie du Seigneur est notre force, amen. Dieu nous a donné donc trois choses à dire cette année 2015. Premièrement, oui, c'est se réjouir dans le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est servir comme Jésus. Et troisième chose, c'est grandir en Dieu. Combien ici désirent grandir en Dieu? Vous voulez désirer grandir dans votre intimité avec Dieu?
Amen.
Vous voulez grandir dans la puissance de Dieu en vous?
Amen.
Dans votre connaissance de Dieu? Mais plus que ça, dans votre efficacité avec Dieu? Amen? Oui? Hallelujah. Servir le Seigneur avec joie et vous allez grandir en Dieu. Servir le Seigneur, servir Dieu, sans servir les hommes et les femmes, c'est impossible. Et le Seigneur m'a dit de vous dire que nous allons apprendre cette année à servir Dieu, ouais, servir ma famille, servir mon église, servir ma communauté. Amen. Avec joie. Pas avec peine. Pas avec tristesse, parce que je n'aurai pas la force pour continuer, je ne persévérerai pas. Mais avec joie. Tournez à dire à quelqu'un, avec joie. Hallelujah. Merci Seigneur. Nous allons avoir un percée, mes amis, de joie au nom de Jésus. Être heureux ou le bonheur, c'est un sentiment. Vous l'obtiendrez quand tout va bien. Amen. Mais combien de fois tout ne va pas bien? Il n'a pas dit que le bonheur sera votre force. Être heureux est votre force. Il dit la joie et votre force, parce que la joie vient de Dieu. Et une chose que je sais de Dieu, est-ce que vous le savez? Il dit, je suis l'Éternel, je ne change pas. Quelqu'un sait où est ce verset? Je suis l'Éternel, je ne change pas. Ok, je ne vais pas dire, je vous laisse dans votre ignorance. Vous pouvez le chercher, vous me dites la semaine prochaine, d'accord? La joie ne change pas. Oui, vous pensez? Non, je suis sûr. La joie ne change pas selon les circonstances, et surtout si nous mettons l'épreuve entre les mains de Dieu. Jésus a dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais il dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Est-ce que vous savez où est ce verset?
C'est dans le Nouveau Testament.
C'est dans le Nouveau Testament. OK, on y va. Nouveau Testament. Qui croit que c'est dans l'Évangile de Jean? Oui, ok. Et quel chapitre? Le dernier. Non. Pourquoi vous faites ça, John? Vous nous mettez mal à l'aise là. Moi, je veux que vous sachiez quelles sont les promesses de Dieu. Matthieu 16, c'est ça? Jean, Ah, le premier, c'est Malachie 3:6, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Vous marquez ça, Malachie 3:6. Et l'autre, c'est, qu'est-ce que vous avez dit, Jean? Jean 16:33. Jésus dit, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Bien, nous sommes en train d'apprendre les choses aujourd'hui, n'est-ce pas? Une autre façon que nous pouvons distinguer entre être heureux, le bonheur et la joie, oui, nous sommes heureux à cause de notre situation. Nous avons la joie en Dieu, même en dépit de notre situation. Je répète, nous sommes heureux à cause de notre situation. Nous avons la joie en Dieu en dépit de notre situation. Amen. Je prendrai du temps, 2 semaines, vraiment pour vous dire ce que la Bible dit en ce qui concerne être heureux. Il y a plein de versets. Il y a une trentaine qui parlent du bonheur, d'être heureux. Quelqu'un se rappelle combien de versets il y a sur la joie dans la Bible? Se réjouir, la joie, qu'il y a combien? Plus que 300. Amen. Oui. Mais nous visons être heureux et nous passons à côté de la force. Donc je vous promets, je vous donne verset après verset comment être heureux, parce que Dieu désire que vous soyez heureux. Amen. Mais être heureux ne sera jamais votre force. La joie du Seigneur est votre force. Amen. Hallelujah. Donc, Philippiens 4:4 dit, réjouissez-vous toujours quand tout va bien, quand il pleut, quand il neige, quand le vent souffle, oui. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Et en cas qu'on n'a pas compris, il dit, je le répète, réjouissez-vous. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5, 16, 18. Vous voulez vivre dans la volonté de Dieu? Voilà, il dit, soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Vous restez toujours en contact avec Dieu. Soyez toujours conscient de la présence de Dieu. Rendez grâce pour toutes choses. Non, il ne dit pas rendez grâce pour toutes choses. Il dit rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Oh, hallelujah. Merci, Seigneur. La joie est déterminée par la vérité éternelle. Être heureux est déterminé par les circonstances actuelles ou les réalités temporelles. Ça va? La joie est déterminée par la vérité éternelle. Malachie 3:6 dit, car je suis l'Éternel, je ne change pas. Être heureux est déterminé par les circonstances actuelles ou la réalité temporelle. Pour vivre dans la joie, il faut savoir que vous êtes sauvé, que vous êtes enfant de Dieu, que votre nom est écrit dans les cieux. Amen. Tournez avec moi en Luc chapitre 10. Je pense que c'est bon que vous le voyez dans votre Bible. Il dit les 70, donc verset 17 de Luc 10, oui. Revient avec joie, Seigneur, les démons même ne sont soumis en ton nom. Jésus le dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Verset 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ça, c'est un verset à méditer. Luc 10:19. Amen. Mais verset 20, qui est marqué là sur l'écran, il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. » Peut-être je peux dire autre chose. « Ne vous réjouissez pas parce que les malades sont guéris. Ne vous réjouissez pas parce que vous avez réussi. » Il dit, « Réjouissez-vous. » Pourquoi? Oui. « Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Je vous pose une question très importante. Votre nom est-il écrit dans les cieux? Amen. Votre nom est écrit dans le livre de vie? Oh, hallelujah. Comment est-ce que c'est possible de savoir cela? C'est que si vous avez dit, Jésus-Christ, tu es mort pour mes péchés, et je fais de toi mon Seigneur et Sauveur, votre nom est écrit dans le livre de vie. Paul dit ça comme ça. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et que tu crois dans ton cœur, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Amen. Avez-vous fait cela? Amen. Si oui, ne laissez personne jamais vous dire le contraire. Dites, je suis enfant de Dieu, je suis sauvé, mon nom est écrit dans le livre de vie et j'ai raison de se réjouir. Peu importe les situations actuelles, quelqu'un dit Alléluia. Si les situations actuelles, c'est un cauchemar, c'est noir, vous avez besoin de vous réjouir doublement. Allô? Pourquoi? Parce qu'il vous faut double force. Amen? Mais nous avons mélangé heureux, bonheur et joie. Et nous avons dit, les choses ne vont pas bien. Je suis triste. Avez-vous lu le Nouveau Testament? Avez-vous lu les quatre évangiles? Permettez-moi de vous encourager, de les lire constamment. Parce que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen? Et nous voyons le Père, oui, à travers les mains de Jésus, à travers les paroles de Jésus, après l'action et l'attitude de Jésus. Et une chose que j'ai remarquée en lisant et relisant et encore, et je fais constamment, oui, Matthieu, Marc, Luc, Jean, et je reprends. Matthieu, Marc, Luc, Jean, toute l'année, tout le temps, je lis au moins un chapitre dans les évangiles tous les jours avec d'autres choses bien ensemble. Pourquoi? Parce que Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et je veux connaître le Père. Et ce que j'ai remarqué de Jésus, peut-être vous n'avez pas remarqué, oui, mais Jésus n'était pas un homme triste. Pourquoi vous dites ça? Mais vous me dites, combien de versets est-ce que vous connaissez qui dit que Jésus était triste? Quelqu'un peut me dire? Quel verset? Jésus pleura. Le verset le plus court de la Bible qui nous montre la compassion, oui, et que Jésus était quand même émotif. Il pleura où? Oui. Pour la mort de Lazare, parce que Marie et Marthe étaient tellement peinées, oui, par le décès, le départ de leur frère. Donc une fois, il faut dire qu'il a ressuscité après. Mais il a pleuré quand même. Il était touché, oui, par l'émotion de ses amis. Amen. Est-ce qu'il y a un autre moment où Jésus était triste? À Gethsemane, oui, il était triste, oui, il pleura des larmes, oui. Et les sueurs étaient des globules de sang. Et un autre moment. Non, il ne pleura pas à la croix. Un autre moment. Pasteur Peter, aide-moi, il a dit hier soir. Il a pleuré sur Jérusalem. Amen. Et sinon, il faisait quoi? Il était rempli de joie. Il parle tout le temps de donner sa joie. Et on va voir des versets après versets où Jésus promet une joie complète, une joie parfaite. Jésus était un homme de joie. C'est pourquoi il était un homme de force. C'est pourquoi il a accompli la volonté de Dieu. Amen. Je suis en train de vous enseigner quelque chose qui va changer votre vie si vous le saisissez. Père, je demande maintenant pour un esprit de sagesse et de révélation. Ouvre les yeux de notre cœur. Père, que ce ne soit pas seulement un accord intellectuel, Seigneur, mais que nous ayons une révélation. Oh, merci, Père. Merci, la force de la joie. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Oh, hallelujah. Hallelujah. Se réjouir est une décision qu'il faut prendre tous les jours. Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre force. Retournons en Jacques, chapitre 1, versets 2 à 4. Nous avons commencé de regarder ça la semaine passée. On a terminé là. Jacques était le pasteur du premier église. Ce n'était pas Pierre. Pierre aurait fait un mauvais pasteur. Un excellent évangéliste, apôtre, ouais. Formidable, mais pasteur non. Ouais. Ouais. Il était trop direct, je pense. Mais Jacques, le demi-frère de Jésus, est le pasteur de l'église. Ouais. Et dans son épître, qui a 108 versets, il y a 54 ordres, commandes. Et regarde ce qu'il dit. Jacques 1, il commence l'épître avec ceci. Mes frères, donc ça veut dire il me parle. Toujours bon de savoir à qui parle. Oui, la parole, il me parle, je suis frère. Frère de Jésus, frère avec vous, n'est-ce pas? Dieu est notre Père, il dit, mes frères, regardez comme, ça veut dire que ce n'est pas. Regardez comme un sujet de joie complète. Quoi? Quoi? Parce qu'on peut enlever quelques versets de la Bible qu'on n'aime pas. On peut enlever les versets qu'on ne comprend pas. Oui, si vous voulez échouer dans la vie, enlève les versets que vous ne comprenez pas. Enlevez les versets que vous n'aimez pas et vous allez échouer dans la Bible. Mais si vous dites, non, je vais accepter ça, je vais regarder ça, je vais trouver la révélation. Il y a écrit pour une raison, oui, pas de se pleurer, pas de se lamenter, pas d'être triste pendant les diverses épreuves, mais de considérer comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. Pourquoi? Sachant que l'épreuve de votre foi, est-ce qu'il y a des gens actuellement dans l'épreuve de la foi? Est-ce qu'il y a des gens? Soyez vrais. C'est le moment de la vérité. C'est l'heure de la vérité dimanche matin. Est-ce que vous êtes actuellement dans l'épreuve de la foi pour votre santé, pour vos finances, pour votre famille, pour votre travail? Vous êtes dans l'épreuve de la foi. Je pense que la plupart de nous, nous sommes dans l'épreuve de la foi. Quelle est notre attitude face à cette épreuve de la foi? Est-ce que vous êtes en train de regarder comme un sujet de joie complète? Il dit, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre. La patience n'est pas le but. Moi, j'ai dit ça hier soir. Taper un ballon autour d'un terrain sans le mettre dans les cages, ouais, on ne joue pas au foot. Ouais, on s'entraîne. Ouais. Cet après-midi, la France va gagner dans la Coupe du Monde en balle. Ouais. Les experts, ils essaient de trouver un autre nom pour leur donner parce qu'ils ont tout gagné. Ouais. Mais vous savez, s'ils ne mettent pas le ballon dans la cage, ouais, passer le ballon, ce n'est pas le but. La patience n'est pas le but. Ouais, la patience fait une œuvre. C'est qu'à un moment, on tire et on marque. Et Dieu veut que vous tirez avec la patience, avec la joie, et que vous marquez, vous gagnez une chose après l'autre. Amen. Ça va vous rendre heureux.
Amen.
Hallelujah. Il dit, la patience ouais, accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez quoi? Parfait. Jésus a dit, soyez parfait comme votre Père Céleste est parfait. Ouais, et accompli sans faillir en rien. Ça, peut-être vous avez besoin de souligner ces mots. Parfait, accompli sans faille en rien, et vous dessinez comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, ouais, être parfait, accompli, sans faille en rien? C'est fort, non? Mais il faut regarder les diverses épreuves comme un sujet de joie. Je ne me réjouis pas parce que je suis malade. Je ne me réjouis pas parce que j'ai perdu mon travail ou que je n'ai pas de travail. Je me réjouis. Vous me suivez? Oui? Je ne me réjouis pas que mon appartement est salubre ou j'ai des problèmes de papier. Je ne me réjouis pas pour ces choses. Je me réjouis pendant ces choses. Amen. Oui. Je décide que pendant ce moment d'épreuve, je vais me réjouir dans le Seigneur. Parce qu'il n'a pas changé et toutes ses promesses sont
oui et amen.
Oui et amen. Et certains d'entre vous, vous ne pouvez pas vous réjouir parce que vous ne connaissez pas ses promesses. Quelquefois, les gens avancent et disent, est-ce que vous voulez prier avec moi pour ça? C'est-à-dire, vous basez sur quel verset? Quoi? Basez sur un verset biblique? Ils ne comprennent même pas ça. Mais vous vous basez sur quoi? La foi n'est pas quelque chose de flou. La foi est toujours basée sur quelque chose que Dieu a promis. Amen. Et ne va pas devant Dieu en disant, Seigneur, je veux. J'ai entendu qu'un autre. Va devant le Seigneur et dis, Seigneur, tu as promis. Il est écrit dans ta parole. Oui? Quand Satan lève la tête, fais comme Jésus. Jésus a dit, il est écrit. Il n'a pas dit, je suis le Seigneur. Oui? Tu ne peux pas dire, je suis enfant de Dieu, tu peux partir. Tu as besoin, au nom de Jésus, tu pars. La Bible dit. Amen. Hallelujah. Se réjouir est une décision qu'il faut prendre tous les jours. Galates 5, on a passé beaucoup de temps en Galates 5 l'année dernière. Mais nous ne sommes pas vraiment arrivés à verset 22 qui dit le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour? C'est quoi d'autre? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Quoi d'autre? La bonté, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la loi n'est pas contre ces choses. Quelqu'un dit Alléluia! La loi, encore en France, n'est pas contre la joie. Amen. Le propre d'un fruit, c'est qu'il grandit. Amen. Il commence sur l'arbre tout petit. Et si on lui laisse oui, se nourrir, on l'arrose, qui prend le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il grandit. Et votre joie, si vous le nourrissez, il va grandir. Amen. Parce que c'est un fruit. Ce n'est pas un fruit. On a dans toutes nos Bibles l'esprit avec un grand E. Oui. Les traductions ont fait une faute parce que ce n'est pas le fruit de l'Esprit de Dieu, c'est le fruit de notre esprit, imprégné par l'Esprit de Dieu. Oui, c'est l'action du Saint-Esprit, mais le fruit, oui, ça pousse sur les branches. Amen. On peut dire que Dieu est le tronc, Dieu est l'arbre, mais nous sommes les branches et le fruit se pousse sur nous. Amen. Est-ce que vous allez laisser ce fruit de joie pousser chez vous? Pourquoi? Parce que la joie du Seigneur est votre force. Et avec la force, vous allez pouvoir accomplir. Vous allez devenir parfait, accompli, sans faillir en rien. Amen. Je vais vous poser une question. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de perdre confiance, de perdre courage, de dire « je ne peux plus, j'abandonne » OK, peut-être je pose une question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais prononcé ces mots « j'abandonne, je ne peux plus » OK, ouais. Est-ce que vous voulez finir avec ça? Parce que vous savez aussi bien que moi, quand vous l'avez prononcé, vous dites « mais ça ne va pas ». Ouais. Vous savez, personne n'a gagné une course en arrêtant au milieu. J'ai fait un marathon, j'ai fait qu'un. Ma femme m'a interdit après. C'était trop loin pour mes hanches, mais j'aime beaucoup courir. Mais je suis entré, j'ai fait le marathon de Monaco, 42 km, 185 mètres. Et je me suis amusé comme un fou pendant 35 km. Ouais, et le marathon de Monaco, c'est comme ça. Donc, vous partez de Monaco, vous entrez en France, vous entrez en Italie, vous revenez. C'est absolument magnifique. C'était une journée formidable. Ciel bleu, azur, mer. Et c'était génial. Il y avait des musiciens partout. Et pendant les 35 kilomètres, c'était génial. À la fin du 35e kilomètre, on est monté 3 kilomètres et on avait 7 kilomètres de descente. Et j'étais en dessous de mon corps. Je courais bien. Et j'ai arrivé en haut. Je n'avais plus de jambes. Ça allait tellement bien jusqu'à là. Et je suis arrivé dans le stade de Monaco avec des larmes. J'avais tellement de mal. Pour ces derniers 195 mètres, j'ai pleuré. Et Laure était là avec des autres. Et j'ai pleuré les larmes. Je ne peux plus. Mais je ne pouvais pas arrêter. Ouais, je suis passé de 5 minutes 20 par kilomètre à 7 minutes 20 par kilomètre. Mais en larmes. Mais je dis, je ne peux pas arrêter maintenant. Ouais, pourquoi? Parce qu'il y avait une médaille qui m'attendait. Plus important que ça, il y a ma femme qui m'attendait. Le médaille, c'est peut-être pas si important, mais ma femme, quand même. Et j'ai pleuré. Oh, ça m'a tellement mal. Ça m'a pris un an et demi de récupérer. J'avais tellement mal aux hanches. Je ne veux pas abandonner ma course avec le Seigneur. Et vous? Amen. Je jurerai et je tiendrai. Amen. Et vous? Oui, j'ai mis ma main dans la main du Seigneur. Il a promis de jamais nous lâcher la main. Donc moi, je ne lâcherai pas sa main non plus. Amen. Regardez avec moi. Comment est-ce qu'on peut ne plus être découragé? Ouais. Hébreux chapitre 12, verset 1 à 3. Si on lit Hébreux chapitre 11, on a cette magnifique chapitre sur la foi. Et les hommes et les femmes de foi qui ont tenu jusqu'au bout. Amen. Et après, ça ferme ce chapitre 11 et on entre en chapitre 12. Et il parle de ces gens et il dit... Hébreux 12, 1, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, tous ces hommes et ces femmes qui ont passé devant nous, peut-être vos parents, vos arrière-grands-parents, qui sont là-haut en train de regarder le progrès de l'Église. Oui? Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, il dit, rejetant tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant... Les regards sur qui? Sur Jésus. Vous ne voulez plus perdre courage. Fixez Jésus. Ayons les regards sur Jésus qui est le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix. Ça, c'est très intéressant, n'est-ce pas? On sait à Gethsémani, il a versé des larmes. Mais après, il parle de la joie, oui, d'aller à la croix parce qu'il ne regardait pas la croix, il ne regardait pas la souffrance, il ne regardait pas être séparé de Dieu, il vous regardait. Il regardait le résultat de la croix. Il pensait à des millions sur millions d'hommes et des femmes qui allaient être convertis, qui allaient devenir enfants de Dieu. Et il avait une joie pour cela. Amen. Et pendant que vous êtes dans l'épreuve, il faut regarder au travers plus loin que l'épreuve. Sinon, vous allez abandonner la partie, vous allez vous décourager. Mais fixons les yeux sur Jésus parce qu'il ne change pas. Amen. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui ont vu de la joie qui lui était réservée à souffrir la croix, mépriser l'ennemi et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Verset 3, « Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lâchiez point l'âme découragée. » Ça va? Tournez avec moi en 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. si vous pouvez saisir la révélation que Paul nous enseigne maintenant en 2 Corinthiens 4, 16 à 18, ça va changer votre vie pour toujours. Écoutez bien. Verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu la vie de Paul. Il dit qu'il était le premier des pécheurs, qu'il a persécuté l'Église, mais on pourrait dire qu'il est devenu le premier des apôtres. Il est celui qui a amené l'Évangile en Europe. Amen. Oui, un homme absolument remarquable, et il nous dit, nous ne perdons pas courage. Pourquoi? Écoutez bien. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'était de faire dire cette phrase, je suis un être spirituel, je vis dans un corps et je possède une âme. Je suis un être spirituel, éternel. J'ai été créé à l'image de Dieu. Il a soufflé sa vie en moi. Je ne suis pas un simple animal bien évolué. Parce que le monde veut nous dire ça. Non, je ne suis pas animal. Oui, je suis créé à l'image de Dieu selon sa ressemblance. Donc, je suis un être spirituel. Je vis dans un corps, mais ça, c'est l'être extérieur. Oui. Aujourd'hui, on met tellement de confiance dans l'homme extérieur. Je ne sais pas, est-ce que vous pouvez trouver cette image? J'ai mis une image d'un vieux homme que je voulais montrer. Est-ce que vous le trouvez? Vous pouvez le mettre? L'homme extérieur vieillit. Devenez grand-père, vous fait paraître plus vieux. Certains n'ont pas cru, mais ça, c'est moi. Nous avons toutes sortes d'étudiants dans notre église. Un étudiant a demandé, il cherchait quelqu'un. J'ai cru pour le rajeunir. Mais quand je suis arrivé, non, on va vous vieillir par 40 ans. Donc, ils ont mis latex et maquillage et tout ça. Et je suis sorti comme ça 3 heures plus tard. Mais vous savez, 3 heures, oui. Et ils ont tiré partout. Hein? Mais moi, je suis d'habitude, je souris. Et ils ont dit, surtout ne souriez pas. Pourquoi? Parce que regarde comme on rajeunit en souriant. Et ils ont dit, arrête de sourire. Ça vous rajeunit. J'ai dit, vous allez être comme votre père. J'ai dit, non. Vous allez voir, et j'ai montré une photo de mon oncle qui a aujourd'hui 91 ans. Je dis, je suis comme mon oncle parce que je ressens beaucoup plus côté de ma mère que de mon père. Ouais. Et je peux vous montrer une photo de mon oncle et vous dire, oh, c'est votre frère. L'homme extérieur, il se détruit, mais l'homme intérieur, il se renouvelle de jour en jour. On va retourner. Ouais. 2 Corinthiens 4, 16, 17, car nos légères afflictions, ouais, l'homme extérieur se détruit, notre homme extérieur se renouvelle de jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, une proie éternelle de gloire. Écoutez bien. Parce que nous nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont... Pardon? Ça, c'est la révélation que je veux que vous ayez. Nous ne regardons pas, nous ne fixons pas les choses visibles. Nous fixons les choses invisibles, les promesses de Dieu, que Dieu ne change pas, que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Il a toujours accompli ce qu'il a promis. Amen. Il va le faire pour vous si vous le croyez. Amen. Merci Seigneur. Donc écoutez bien parce qu'il continue. Verset 18. Est-ce que je suis là encore? Car, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères. Est-ce que je peux vous demander de vous réjouir sur les choses visibles qui sont passagères? Le compte en banque, oui, c'est une chose visible, passagère. Amen. Sans le travail, c'est une chose passagère. Les symptômes dans votre corps, c'est une chose passagère. Amen. Car les choses visibles sont passagères. Il faut que vous parlez à vos circonstances. Il faut leur dire, déplacez-vous. Jésus a dit, si vous dites à cette montagne, quelle montagne? Le problème, l'obstacle qui vous empêche d'arriver là où Dieu te veut. Amen. Et vous parlez dans le nom de Dieu, vous êtes passagère. Ouais, vous êtes visible, je vous vois, vous partez. Parce que moi, je mets ma confiance non pas dans les choses visibles, mais dans les choses invisibles. La promesse de Dieu est écrit dans les cieux. Amen. Certains de vous, vous allez vous réveiller pendant la nuit en disant ah, ce que je vois est passager, ça part, c'est fini. Ce qui est invisible, c'est ça qui est éternel. Et vous vous accrochez à cela, ça va changer votre vie et vous allez pouvoir vous réjouir. Et vous aurez la joie. Oui, pourquoi? Parce qu'il faut faire face à ce qui est passager. Il faut faire face à ce qui est visible. Oui, était visible. David n'a pas dit, en face de Goliath, il n'y a pas de géant. Il ne peut rien me faire. Il n'a pas dit ça. Il dit, tu as insulté l'armée du Dieu vivant et tu vas mourir. Amen. Mais tous les autres, regardez ce géant, 3 mètres, sa tête sera au-dessus de ce plafond, d'accord? Oui, au-dessus. David n'a pas regardé comme tous les autres. Ils étaient en train de tomber dans le temps. Saul avait une tête de plus que les autres et ses grands frères étaient comme ça. Pourquoi? Parce que David regardait cet homme. Il a dit, tu es un philistin incirconcis, tu n'as pas d'alliance. Moi, je suis un homme d'alliance. Et il a levé la tête et il dit, mon Dieu, qui m'a donné force pour tuer le lion et l'ours, il va me donner la force pour te tuer aussi. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Et nous avons besoin de fixer nos yeux, non pas sur ce qui est visible, qui est passager, mais sur l'éternel, sur Dieu, sur Jésus, sur ses promesses qui sont éternelles. Hallelujah. Qu'est-ce qui va se passer? La joie va commencer à briller en toi. Et tu dis, oui, mais Dieu m'a donné une promesse, et cette promesse est vraie, et Dieu se tient derrière sa promesse. Ce n'est pas est-ce que je peux croire, mais est-ce que Dieu est capable d'accomplir ce qu'il a fait? Oh, hallelujah. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Gloire à Dieu. Je vous donne un devoir. Je veux que vous lisez 2 Corinthiens 11, versets 23 à 29. Vous remarquez ça? Pourquoi? Parce que c'est important que vous continuez ce travail avec ce que je suis en train de vous dire. Parce que Paul, qui nous prêche ça, qui nous donne cette révélation, ce n'est pas un homme qui n'a pas vécu des circonstances, qui n'a pas eu des difficultés. Il était fouetté, lapidé, laissé pour mort. Il était naufragé, il était en danger, il dit, dans la ville, dans les déserts, parmi les faux frères. Quand il parle de légère affliction du moment présent, il savait de quoi il parlait. Mais il dit, nous ne perdons pas courage. Amen. Et vous avez besoin de voir ça parce que vos circonstances actuelles ne sont rien en comparaison. Paul et Silas étaient jetés en prison pour avoir délivré une jeune femme qui était possédée d'un esprit. Ils étaient battus, ils étaient mis dans le prison intérieur. Et il dit à minuit, vous pouvez le lire en Access, à minuit, les prisonniers les entendaient prier et chanter les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas en train de faire comme la plupart des chrétiens, en train de pleurnicher, se plaindre et s'accuser. Ouais. Ils étaient en train de prier et louer Dieu. Et nous sommes ici parce qu'on a prêché l'Évangile. Et cette fille est libre. Et peu importe ce qu'ils nous font, cet Évangile va avancer. Paul dit aux Philippiens, il ne sait pas s'il va mourir, partir avec le Seigneur ou rester. Mais il dit, je suis emprisonné. Mais tous les gens, et souvent il était emprisonné entre les bras de deux hommes. Il dit, tous les gens, c'est pour l'Évangile que je vis ici. Il prêche à tout le monde. Amen. Et il était libéré. Dieu a fait des miracles. Pourquoi? Parce qu'il s'est réjoui. Amen. Hallelujah. Quels sont les résultats? Philippiens 2, 14. Si on se réjouit dans le Seigneur, il dit, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Ça va changer la façon qu'on vit. Ça va changer la façon que tu fais le ménage chez toi. Ça va changer la façon que vous allez faire vos achats, oui, en grande surface. Ça va changer la façon que vous allez au travail, que vous faites votre travail. Ça va changer votre façon que vous êtes en contact avec l'autre, les membres de la famille. Ça va tout changer si vous comprenez que la joie du Seigneur est votre force. Que les choses visibles sont passagères, les invisibles, les promesses de Dieu sont éternelles. Colossiens 3, 23 à 24 dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur pour le Seigneur et non pour les hommes. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage comme récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. J'ai déjà donné une bonne raison. Je vais vous donner deux bonnes raisons pour se réjouir. Un, pour votre santé. C'est en Proverbe 17, verset 22. Il dit, un cœur joyeux est un bon remède. La chose la plus difficile, quand notre corps est atteint, quand nous avons une migraine ou que nous avons les symptômes de grippe ou autre chose, les gens annoncent un cancer ou le sida, c'est qu'on s'attriste. Et on commence à pleurer sur notre soi et on commence à imaginer le pire scénario. Amen. J'ai une dame que je visite régulièrement dans les maisons de retraite, elle a 87 ans. Et je dis, la pire des choses qui puissent vous arriver, c'est quoi? Vous pouvez mourir, n'est-ce pas? Et vous savez ce qu'elle dit? Je veux mourir. Je veux aller être avec le Seigneur. Je dis, et c'est le pire des choses qui peuvent vous arriver. Elle dit, donc il faut se réjouir. Dieu vous a donné encore du temps. Réjouissez-vous. Le pire des choses qui peuvent vous arriver, les amis, c'est que vous mourrez et vous partez pour être avec le Seigneur. C'est pas si grave, n'est-ce pas? Qu'on voit ça comme ça. Et vous allez, non, mais je veux vivre. Oui, Rebecca a dit, mais le Seigneur vient bientôt, n'est-ce pas? Est-ce que je peux accoucher ma fille d'abord? Avant, c'était, est-ce que je peux marier avant? Oui, maintenant, elle est mariée. Maintenant, est-ce que je peux avoir ma fille? Oui. La pire des choses qui peut m'arriver, c'est que je meurs. Et si je meurs, je serai auprès du Seigneur. C'est pas si grave que ça. Amen. Je peux me réjouir. Oui, un cœur joyeux est un bon remède. Mais l'esprit abattu dessèche les eaux. Ésaïe 61, 7, il faut que je m'arrête là. J'ai tellement de choses encore à dire, comme vous le savez. Ça brûle en moi. Je veux que vous ayez la force, oui, pour réussir. Et votre force est dans la joie. Amen. La force est dans la joie. Voilà un verset qui a été une révélation pour Laura et moi. Nous avons reçu ça il y a 34 ans passés. Oui. Et ça nous a porté jusqu'ici. Oui. Celui qui se réjouit aura le double. Amen. Vous n'avez pas assez, réjouissez-vous. Et les gens disent, oui, mais avec le double, ça ne me suffit pas. Mais continuez à vous réjouir, doublez le double. Et après, doublez le double de le double. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Ésaïe 61, verset 7, il dit, oh, j'aime ce verset, au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Qui veut une portion double? Amen. Qui sait quoi faire avec une portion double? Oui. Vous savez quoi faire? Parce qu'on a entendu ça, quel magnifique déclaration qu'on a entendue ce matin, que la prospérité selon Dieu, c'est pour l'altruisme. L'altruisme, oui, qu'on puisse être généreux. Oui, la prospérité ou la cupidité dans le monde, c'est moi, moi et moi. Je veux le double. Oui? Pourquoi? Parce qu'il y a des gens que je veux bénir. Parce qu'il y a les œuvres que je veux soutenir. Parce que je veux que cet évangile soit prêché. Amen?
Amen.
Hallelujah. Qu'est-ce qu'il dit? Au lieu de votre ignominie, ils seront joyeux de leur part. Josaphat, un des rois de Juda extraordinaire, en 2 Chroniques 20, oui, a eu une armée ennemie, faite par plusieurs rois, venir faire combat. Il ne pouvait même pas compter. Et il dit, nous ne savons pas quoi faire, mais nos yeux sont sur toi. Et ils sont sortis, oui, avec les trompettistes, oui, et l'équipe de louanges devant l'armée. Ils ont dit, on va louer le Seigneur. Et ils ont eu une immense victoire. Amen. Vous voulez une immense victoire quand l'ennemi vient contre vous? Et sachez ceci, il vient rarement seul. Il vient avec d'autres rois, avec d'autres démons. Oui, il va vous attaquer à droite et à gauche, ça n'arrive jamais une chose. Vous n'avez pas remarqué ça? Oui, il y a toujours plusieurs choses qui viennent. Et il faut dire, c'est que le diable! Et il est vaincu! Ou est-ce que votre diable est grand? Parce que certains, tu vois, le diable est grand, il est partout, et leur Dieu est tout petit, il est dans leur poche. Non, c'est mon Dieu qui est grand et c'est le diable qui est vaincu. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera
éternelle.
Il faut que je m'arrête là, c'est dommage, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez saisi cela? Oui. Notre joie se base sur des vérités éternelles. Être heureux se base sur les circonstances, mais je décide de fixer mes yeux sur Jésus. Je ne perdrai plus courage. Amen. Je vais me réjouir, surtout quand les choses semblent noires. Quand je ne sais pas quoi faire, je lève la tête et je regarde Dieu et dis, je ne sais pas quoi faire, mais toi, tu sais. Et j'ai confiance en toi. Tu es mon Père. C'est ton problème. Vous pensez qu'elle a un problème aujourd'hui? Elle n'a aucun problème. Vous voyez, s'il y a un problème, c'est le problème de ses parents. Amen. Que c'est stupide de dire, mais elle a beaucoup de problèmes. La pauvre, Dieu, à 5 jours, elle a tellement de problèmes. Donc, oui, elle doit voir le banquier, elle a besoin de voir l'assistance sociale. Mais elle n'a aucun problème, elle a des parents. Et nous avons un Père qui nous aime, qui a manifesté son amour envers nous. Je vous invite à vous lever. Oh, que Dieu est bon. Déclarez avec moi, je sers le Seigneur avec joie. Et je grandis en Dieu. Oh, hallelujah. Tournez vers quelqu'un, dit, la joie du Seigneur est votre force. Oh, hallelujah. Nous aurons un temps de prière. On aime terminer nos célébrations en priant pour vous, en libérant l'onction de Dieu. J'inviterai les membres de l'équipe pastorale à venir, mais juste avant, peut-être vous êtes là ce matin et vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Vous ne pouvez pas vous réjouir dans l'éternité si vous n'avez pas fait de Jésus votre Seigneur et Sauveur. Il y a 41 noms passés. Mardi, j'ai fêté... Excusez-moi, je ne peux pas entendre. 41 passés, mardi, j'ai invité Jésus d'entrer dans ma vie. C'était la meilleure décision de ma vie. Je n'étais pas élevé dans l'église. Je n'étais pas élevé avec la Bible ou avec la prière. Mais j'ai rencontré les chrétiens. Et ce que j'ai vu chez eux, je dis, c'est ça que j'ai cherché toute ma vie. Et quand j'ai dit, mais comment est-ce que je peux avoir ça? Ils ont dit, il faut inviter Jésus d'entrer dans votre vie. Et moi, j'ai dit, je ne veux pas être religieux. Et il dit, c'est absolument rien à faire avec religion. C'est une relation avec Dieu. Et il dit, mais je ne sais pas prier. Je n'avais aucune idée comment prier. Donc, un jeune homme a prié avec moi. Il dit, répète après moi. Et si vous voulez, ce matin, inviter Jésus d'entrer dans votre vie, ou peut-être vous êtes éloigné de Dieu et vous voulez vous revenir, faites cette prière avec moi. Dis, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à ma place. Je crois que tu as payé pour mes péchés. Je crois que tu es ressuscité le troisième jour. Je me repens de mes péchés. Car tu es fidèle et juste pour me pardonner. Jésus, viens régner dans mon cœur. Tu es mon Seigneur et Sauveur personnel. Et je suis maintenant enfant de Dieu. Et j'ai la vie éternelle. Je le crois. Et je suis sauvé. Si vous venez de faire cette prière pour la première fois, ou vous venez de le faire parce que vous revenez au Seigneur, moi j'aimerais prier avec vous. L'équipe pastorale vient, il y a Pasteur Lynn, Pasteur Peter, Laura, il y a Nathalie, hallelujah. On aimerait prier pour vous, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un, on lève la main, dit, je viens de prier cette prière pour la première fois, ou je viens de revenir au Seigneur et j'ai refait cette prière parce que moi je veux prier avec vous. Est-ce qu'il y en a quelqu'un? Je regarde tout. Je vois cette main, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Oh, hallelujah. Donc, on va avoir un temps de prière. Vous pouvez venir vers moi. Je vous présenterai Nathalie. Si vous voulez venir vers Pasteur Peter, Pasteur Sherilyn, Pasteur Laure, ou moi-même pour la prière, pour la santé, pour le travail, pour être d'accord avec nous. Amen. Hallelujah. Venez. Oh, hallelujah. Venez, venez. Et louons le Seigneur. Comment tu t'appelles?
France.
France. Je te présente Nathalie.
Bonjour.
Oh, mais on est ravis que tu viennes de faire cette prière. C'est pour la première fois?
Oui. Tu
reviens au Seigneur. Bien. Mais Nathalie va prendre un moment avec toi, à prier avec toi. D'accord? C'est bon? Oh, mais c'est super. Je peux t'embrasser? Bonne décision. Oh, hallelujah. Merci, Jésus. Oh, combien le Seigneur est bon. Oh, le Seigneur est bon. Dis avec moi, le Seigneur est bon. Tout le temps et à 100%. Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi? La joie du Seigneur est ma force.